Mesdames, messieurs, bonjour, mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette émission de l'agriculture de demain. Aujourd'hui, à l'animation, M. Simon Bégin, c'est l'émotion, Simon, hein, je m'en excuse, hein, c'est complètement l'émotion. Dès que je te retrouve comme ça, des suites de quelques semaines sans qu'on s'est croisés.
Oui, oui, c'est correct.
C'est comme ça. Alors, j'espère que tu vas bien, Simon.
Ça va très bien, mon cher, en forme, oui.
Il y a également M. Guy de Bailleul. Guy, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Alors écoutez, aujourd'hui, on va se pencher sur les sources d'informations en agriculture, leur diversité, leur évolution récente et leur importance dans les choix que les agriculteurs font. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Denise Proulx. Denise, on peut se tutoyer. Denise a déjà collaboré à plusieurs reprises avec l'Institut Jean Garreau. Alors Denise, résidente de Saint-Joseph-du-Lac, cette belle région, elle est journaliste, enseignante et chercheuse associée au CREPA. Le CREPA, c'est le collectif de recherche en éco-santé qui s'adresse entre autres aux pesticides et aux pratiques agricoles. Et Denise, c'est une personne aussi qui est très engagée dans ta communauté. On peut penser à ton action au niveau du Carrefour bioalimentaire des Laurentides et de la communauté nourricière de Saint-Joseph-du-Lac. Un sujet dont j'aimerais bien qu'on ait l'occasion, dans une prochaine émission, de se reparler. Mais aujourd'hui, donc, on va se pencher sur avec toi sur les sources d'informations en agriculture. Je rappelle rapidement le contexte. En mai dernier, enfin, au mois qui se termine, il y a eu lieu le 90e congrès de l'ACFAS, l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, où on a eu des centaines de présentations de colloques. Et un de ces colloques-là portait sur les transitions énergétiques en agroalimentaire, enjeux, acteurs, stratégies et paradoxes. Un sujet très important, entre autres. Et dans le cadre de ce colloque-là, Denise, tu as eu l'occasion de faire une présentation sur les sources d'informations utilisées par les producteurs de grandes cultures de céréales et comment ces sources influencent leur choix d'affaires. Alors, écoutez, on a quelques minutes entre nous pour en parler. Et j'inviterais Guy à peut-être y aller avec la première question.
Oui, bonjour Suzanne. Bonjour Denise, pardon. effectivement, moi, c'est un sujet qui m'interpelle à la fois parce que, compte tenu de mon domaine de travail, mais aussi parce que je suis issu d'une petite ferme et l'information avait un rôle à jouer. En quelques mots, pourrais-tu nous dire pourquoi il apparaissait important d'analyser ces sources d'informations telles qu'elles sont aujourd'hui utilisées par les agriculteurs?
En fait, la base de la recherche, c'est une recherche qui a été financée par un fonds canadien de recherche sur les alternatives justement aux pesticides et en environnement et à l'installation de nouvelles pratiques en développement durable. L'idée, c'était de voir finalement comment est-ce que on pourrait influencer les producteurs. Nous, on a focalisé sur les producteurs de grandes cultures parce que ce sont des producteurs qui utilisent énormément de pesticides, notamment, et de toutes autres sortes de produits, d'intrants pour aider la productivité des champs. Et l'idée, c'était de voir finalement qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut modifier les pratiques agricoles par l'information à la base. Donc, l'idée, c'était de voir vers quoi les producteurs et les productrices se tournent pour s'informer de comment ils pourraient améliorer leurs pratiques agricoles. Et c'est tout cet esprit-là qu'on a regardé. Où se trouve la recherche universitaire en comparaison avec les médias grand public, les nouvelles applications, le numérique, le web, les médias conventionnels, etc. Alors, c'est dans cet esprit-là que moi, on m'a confié le mandat de fouiller cet aspect-là. Bon, j'avais d'autres mandats, mais celui-là, on l'a approfondi pour la présentation à l'ACFAS, là, notamment.
Et il y avait notamment dans cette présentation une diapositive importante. Oui. On n'a pas la possibilité de reproduire au micro, mais pourrais-tu nous en tirer un peu les constats les plus saisissants?
En fait, moi, dans mes recherches, ma méthodologie, la façon dont je l'ai établie, c'est que j'ai travaillé avec des articles scientifiques, des articles de la littérature grise, donc les médias en général, des entrevues avec des institutions, etc. Et dans, j'ai trouvé deux recherches fondamentales qui ont vraiment été à la base de tout le départ de nos recherches subséquentes. C'est une, d'abord une recherche française qui a été faite en 2019 et qui a été renouvelée après en 2021 et qui dit à peu près la même chose, mais en évolution. Et aussi une recherche du Cyrano qui, elle, a été faite par une équipe québécoise en 2020, qui a été publiée en 2020 et qui était de voir où, comment les technologies numériques s'intégraient de plus en plus dans les sources d'information chez les producteurs et productrices du Québec. Alors, ça a été à la base. Et de là, on a trouvé des éléments importants parce que le Cyrano s'intéressait à trois productions spécifiques, les grandes cultures, la production laitière et la production en serre. Et ce qu'il est ressorti très fortement, et ça, c'est une recherche qui date de sur le terrain, là, je vous dirais, fait par les chercheurs du Cyrano de 2019. Donc, maintenant, on est rendu presque à 4 ans. Donc, on peut voir qu'il y a une évolution de ça maintenant aussi, là. C'est que ce que ça nous disait, c'est que la première source d'information, ben, ce sont les fournisseurs. Carrément. Et ensuite, c'est Internet. Et ensuite, si ça descend, les médias finissent par arriver. Et ce qui était très intéressant, c'est toute la documentation dite beaucoup plus scientifique, amenée par les centres de recherche, autant de public que privé, et par les universités, sont en bas de la liste d'intérêt pour les informations. Les premières sources d'informations sont véritablement les détaillants, les fournisseurs d'équipements, et ensuite, les expochants. Les producteurs se parlent entre eux, donc beaucoup le bouche à oreille, tous les sites via Facebook, des sites spécialisés de production servent beaucoup à transmettre l'information. Donc, c'était intéressant de voir que c'est pas une recherche scientifique, mais c'est une recherche beaucoup plus pratique. On veut quelque chose qui va nous donner de l'information qu'on va pouvoir rapidement mettre en pratique. Et ce sont principalement les fournisseurs, les détaillants qui fournissent cette information-là. Parce que ce sont eux, la plupart du temps, qui sont les mieux équipés pour fournir l'information.
Est-ce que leur canal...
Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe dans la mesure où on pourrait dire que les agriculteurs aujourd'hui sont plus formés qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans et que, malgré tout, ce sont encore les mêmes sources, un peu comme si ce qui avait changé, c'était plutôt les supports, c'était l'utilisation de moyens numériques, et pas les acteurs eux-mêmes.
Non, mais c'est ça. C'est parce que, quand on regarde qui sont les fournisseurs, qui sont les détaillants, qui sont les gens qui fournissent cette information-là, bien, inévitablement, nous arrivons à tout ce support de communication excessivement bien spécialisé par les multinationales et par les très grandes entreprises qui ont les moyens financiers de mettre en place des équipes de communication qui vont donner de l'information aux producteurs. Donc, d'un côté, on leur envoie avec un discours très travaillé, très positif, où on leur dit, ben écoutez, la modernité maintenant, c'est ça. Une agriculture de précision, une agriculture spécialisée, une agriculture... On récupère les mots-clés de la nécessité de prendre soin de la nature et de l'environnement, d'intégrer les enjeux de développement durable, et on utilise ces mots-clés-là pour vendre finalement des produits. Et le producteur, ben lui, sa principale mission d'un producteur, c'est d'être les deux pieds dans son champ, là. Il va prendre ce qu'on va lui donner comme outil qu'il va pouvoir appliquer rapidement.
D'accord. Alors, Denis, je comprends qu'il y a des grands spécialistes des communications à l'œuvre derrière tout ça et des moyens très puissants. Maintenant, tu parles d'un message globalement positif qui est véhiculé, mais l'autre côté, le côté sombre de certains produits, est-ce que comment les agriculteurs peuvent être informés de cet aspect-là? C'est sûr, les vendeurs de pesticides n'insisteront pas sur les dangers environnementaux, j'imagine, mais quelles sont les sources qui peuvent un peu peut-être rétablir l'équilibre dans l'information que reçoivent les producteurs?
Mais en fait, l'équilibre, il vient par les recherches qui sont publiées par ou bien le crack ou bien le sérum. Mais comme je dis, malheureusement, ce type de recherche-là, des recherches universitaires qui sont faites également, des recherches souvent universitaires qui viennent plutôt du côté social, sociopolitique, que du côté agronomique aussi, OK? Parce que on a constaté que les recherches plus sociopolitiques étaient beaucoup plus critiques que les recherches plus agronomiques, qui elles sont beaucoup plus techniques, là. Ce que l'on constate, c'est que finalement, les producteurs, ils vont chercher de l'information et qui vont leur permettre d'aller, comment je dirais ça, j'étais en train de perdre mon idée de ce que je voulais vous dire là, qui vont leur permettre d'appliquer dans le concret ce qu'ils veulent faire. Et c'est que ces grands centres de recherche qui pourraient leur donner de l'information plus critique, mais ils sont peut-être pas suffisamment publicisés. Ils sont peut-être pas suffisamment. Quand est-ce que vous voyez, on en voit, là, faut pas que je sois négative, là, on en voit. Mais à comparer, prenez un journal comme La Terre de chez nous, qui est un peu la Bible de lecture des producteurs, que ce soit par le web ou par le papier, OK? Bien, regardez la publicité. La publicité à 80 % c'est une publicité de fournisseurs, de détaillants. La publicité en provenance comme telle, des centres de recherche, il y a quelques articles, souvent en fin, complètement en fin de médias, OK? Puis, il y a très peu de publicité en disant « allez voir telle chose, telle information ». Moi, je pense que la lacune vient du fait de la promotion de cet esprit critique de la part des fournisseurs d'informations beaucoup plus détachés que celle qui provient des fournisseurs et des détaillants.
Dirais-tu que le contact personnel, j'imagine que ces grandes firmes-là ont des représentants sur le terrain qui se rendent dans la ferme, que ce contact personnel-là est un facteur important dans la diffusion de l'information? Il y a quand même aussi les centres, les clubs conseils, c'est des gens qui se promènent aussi qui peuvent véhiculer des messages peut-être plus équilibrés? Comment ça marche là, au niveau de la visite sur la ferme?
Ben en fait, les visites, le producteur est constamment visité par toutes sortes de fournisseurs d'informations, là, fournisseurs de produits qu'il a besoin pour être productif, pour être efficace. Et aussi, mais est-ce qu'on voit ça, des agronomes qui viennent visiter les producteurs pour lui vendre de l'information en disant, ben regarde, tel produit... on te vend ses qualités, mais attention, et aussi peut-être un côté à regarder de que tu devrais prendre en compte également.
D'accord.
Moi, j'en ai pas trouvé. Probablement que ça existe, là, mais dans des projets pilotes. Le projet pilote que j'avais consulté beaucoup en 2019, l'Acadie Lab, que vous connaissez certainement, qui avait été mené par la chercheuse... Julie Ruiz de l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Oui, d'accord. Oui.
C'est super intéressant. Mais il y avait 5 producteurs qui participaient en grande culture.
Écoute, alors, Denise, on va s'arrêter pour quelques instants. C'est déjà le temps de la pause. Et après ça, on va revenir. Et on pourrait, entre autres, peut-être que tu nous parles de l'ensemble du colloque auquel tu as participé.
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Depuis 1992, Première Moisson est fière d'être à votre table avec les produits inspirés des méthodes traditionnelles françaises. venez découvrir la grande sélection de pains frais du jour confectionnés par des artisans boulangers et mettant en vedette les blés du Québec. Visitez premièremoisson.com ou rendez-vous à la boulangerie la plus près de chez vous. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil Solution Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
Alors, nous sommes de retour à l'émission L'agriculture de demain, où aujourd'hui nous recevons Mme Denise Proulx, journaliste, enseignante, chercheuse, personne très engagée dans son milieu à Saint-Joseph-du-Lac. Denise a récemment fait une présentation lors d'un congrès, du congrès de l'ACFAS, sur les sources d'information en agriculture et le poids que ces sources peuvent avoir sur les choix des producteurs, entre autres d'utiliser plus ou moins de pesticides. Denise, tu nous as parlé de la grande diversité des sources d'information qui alimentent les producteurs dans leurs décisions, mais il y en a peut-être, est-ce qu'il n'y en aurait pas trop? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine confusion qui peut émerger de toutes ces sources, de ces visites que les producteurs reçoivent sur leur ferme?
Ah, c'est sûr qu'ils le disent eux-mêmes. C'est pourquoi, d'ailleurs, actuellement, ils sont intéressés, mais réticents à intégrer toutes les technologies d'applications mobiles, etc., c'est qu'ils se sentent déjà bombardés d'informations. Alors, puis ils sont quand même assez sensibles et intelligents pour comprendre que comment diviser le vrai du faux, du promotionnel, etc. Ça prend des minutes et des minutes et des minutes de lecture qu'ils n'ont pas. Alors ça, c'est clair que... puis j'ai de plus en plus, comme je disais au départ, une information qui est très travaillée, spécialisée, pour aller chercher le sentiment de dans le progrès, le sentiment de prendre en compte les enjeux de l'environnement. Donc, c'est excessivement... Mais là, à un moment donné, de savoir est-ce qu'on me donne l'information juste et pas. Tantôt, je vous ai parlé que les sources d'information, principalement, il manquait peut-être du côté de la diffusion du sérum, du crack, notamment, on parle de ces deux-là, du côté universitaire. Les universitaires font absolument pas suffisamment de promotion de leurs recherches. Mais il y a aussi, c'est que il y a le CETAB, qu'on connaît très bien, qui est un centre de recherche excessivement bien documenté, très, très intéressant. Il y a la coopérative pour une agriculture de proximité écologique qui réunit les producteurs biologiques. Il y a l'Union paysanne qui s'est marginalisée d'une certaine manière, mais qui tient quand même un discours agro-environnemental de modification. Il y a Équiterre qui veut rentrer... l'organisme environnemental Équiterre qui veut rentrer maintenant dans la cour de ces diffuseurs d'informations-là. Le seul problème qu'on a avec ces informations qui pourraient être plus critiques de ce que les détaillants et les fournisseurs produisent, c'est qu'il manque de moyens. Il manque de moyens de diffusion. Alors, cet équilibre-là devrait être rétabli principalement par les médias conventionnels, traditionnels, qui diffusent l'information qu'on connaît, la terre de chez nous, le bulletin des agriculteurs, même la vie agricole, etc., qui sont les plus conventionnels. Mais quand on regarde les médias spécialisés, principalement en grande culture, il y a un article pour 10 articles promotionnels de technologie, de nouvelles façons de faire, etc. Puis un autre élément que moi je voudrais ajouter avant de répondre à d'autres questions, c'est que il y a aussi les informations actuellement concernant les grands enjeux en agriculture s'intéressent principalement au sol, parce qu'on sait que la qualité des sols est vraiment en danger par cette façon de procéder, même avec l'agriculture de précision, on travaille beaucoup à la couverture des sols, on met beaucoup d'énergie de diffusion d'informations à ce niveau-là, mais on oublie un élément essentiel qui est complémentaire, qui est toute la préservation de la biodiversité. Et la biodiversité, c'est pas juste les pollinisateurs, c'est tous les oiseaux, c'est tout ce qui vient avec, finalement, un écosystème qui fait partie aussi de l'écosystème des sols. Et ça, sur cet aspect-là, la question de la biodiversité, il y a une lacune d'information très, très importante, très grave, moi, je trouve.
Denise, tu venais d'évoquer l'agriculture de précision et on avait mentionné avant la pause que les agents, les représentants des grandes firmes d'intrants sont souvent plus présents que les autres types d'acteurs auprès des agriculteurs, soit physiquement, soit par les nouveaux moyens d'échange. Quand on parle d'agriculture de précision, effectivement, on parle aussi d'engins qui sont embarqués sur les machines agricoles et qui relèvent toute une série de données, oui. Qui permettent aux agriculteurs de pouvoir utiliser leurs engins, leurs engrais, leurs pesticides de manière plus appropriée. Mais ça, est-ce que ce sont des données qui sont collectées par les machines, reprises par les entreprises qui gère en fait indirectement ces données, est-ce que ça renforce pas encore cette relation fournisseur-agriculteur?
Oui, et je ne l'ai pas présenté dans ma présentation de l'ACFAS parce qu'il y avait une autre équipe qui y travaillait également, donc je l'ai retiré. Mais j'ai fait la recherche sur ça également. Ça devient très préoccupant parce qu'il n'y a pas de balise d'éthique actuellement sur la recherche la captation d'informations, les données que les agriculteurs recueillent pour leurs propres besoins et qui deviennent des données accumulées dans des bases de données gigantesques qui appartiennent à des méga multinationales de la communication, que ce soit Microsoft, TELUS, un volet agriculture maintenant qui est exponentiel. Et regardez, là, je vous nomme ces deux-là qui me viennent à l'esprit, mais on pourrait en trouver 4-5 autres, là. Et le problème, c'est que...
John Deere a tout un...
John Deere, c'est ça.
De collecte.
Tout à fait. La question, c'est que... une étude française s'est interrogée à savoir... Quel sera le prix d'une ferme qui possède cet historique de données quand elle sera sur le marché de la revente? Est-ce que cette ferme-là, parce qu'elle a une historique de données qui devrait en principe l'aider à être beaucoup plus précise, à améliorer son efficacité de production, etc., est-ce que cette ferme-là va valoir 4 fois plus cher qu'une autre? Est-ce que ça veut dire que finalement, ces données-là que les États ne balisent pas du tout, qu'ils laissent le privé s'en accaparer, sans dire, écoutez, wow, minute, là, sur ce territoire-là, c'est mon territoire, ça appartient au pays, ces données-là doivent appartenir à l'État. Alors, actuellement, ces données-là, il n'y a aucune balise d'éthique, aucune balise politique autour de pour les encadrer. Et une fois qu'une ferme les possède, bien la question que les Français, l'Europe se questionnent actuellement sur le sujet, c'est est-ce qu'on se retrouve à ce que finalement ces terres-là vont valoir des millions de dollars qui ne seront accessibles qu'à des firmes d'investissement? Donc, on accentue d'une certaine façon à ce moment-là toute la problématique de la mainmise du grand capital sur la richesse première des terres agricoles qui doivent appartenir au territoire. Parce que si on veut parler de nourrir le monde, il faut d'abord nourrir nos propres collectivités. Et c'est toute une façon de retravailler l'approvisionnement, justement, de proximité, l'approvisionnement local, toute une des redéfinitions. Et si les données que l'on possède sur ce territoire-là, regardez, juste au Québec, les grandes cultures, il y a des entreprises qui font de la grande culture au Québec qui pratiquent déjà cette collecte de données. Est-ce que ces fermes-là, finalement, ne seront plus jamais achetables par des Québécois?
Denise, écoute, soulève des enjeux très politiques, dans le fond. C'est un message qu'on pourrait envoyer à nos gouvernements de peut-être de contrecarrer ces tendances profondes d'accaparement de l'information, des données sur les fermes et d'accaparer aussi l'écoute des producteurs par des moyens de diffusion, de publicité très, très séduisants, comme tu l'as évoqué. Il y a peut-être un rôle à nos États, que ce soit au fédéral ou au provincial, c'est de contrer, de contrebalancer ces grandes tendances. Là, on a vu récemment, dans le cadre du partenariat canadien-Québec, une augmentation importante des sommes consacrées à des stratégies plus éco-responsables en agriculture. Mais en question qu'on peut se poser, quelle part de ces budgets-là est consacrée à l'information? On le voit bien, là, les études universitaires nombreuses qui sont produites, mais qui se ramassent un peu sur des tablettes. Le moyen, les outils de diffusion séducteurs, efficaces, qui vont vraiment rejoindre et influencer les décisions des producteurs, ben ils sont un peu absents. Alors, écoutez, ma chère Denise, on tire déjà à la fin. On aurait aimé ça que tu puisses nous parler du colloque. En terminant, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux producteurs qui nous écoutent pour bien s'informer? Quelle serait la recette là, pour éviter de tomber dans les pièges, entre guillemets, qui peuvent être tendus par certains fournisseurs?
Ben moi, je vous dirais de choisir la diversité d'approvisionnement d'informations en lisant à la fois... maintenant, les producteurs, je pense que de plus en plus sont capables de lire en anglais, tout du moins les plus jeunes, là. D'aller chercher de l'information autant du côté de l'Europe que du côté des États-Unis. L'Europe sont beaucoup plus évoluées, sont beaucoup plus avancées dans la préoccupation éthique, justement la diffusion de l'information, de se donner de suivre une recherche, des recherches universitaires ou des recherches par le crack ou par le sérum. Moi, je me suis mis à lire des documents en provenance, puis c'est toujours très, très bien fait, là. Ouais. C'est intéressant. Je n'ai pas nécessaire de tout lire, là. D'en choisir un, suivre. Ouais. Et donc, vraiment de diversifier les sources.
Alors, diversifier les sources. C'est un très bon conseil. Faut prendre le temps, mais c'est sûr que nos producteurs sont super occupés, mais prendre un peu de temps pour bien s'informer, je pense que ça sera toujours payant à la longue. Alors, merci beaucoup, Denise.
Le mot-clé de la diversité, on ne le soulignera jamais assez, oui, pour merci. L'agriculture dans tous les domaines.
D'accord. Oui.
Puis vous-même, de diffuser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui soient complémentaires à ce que le...
Bon, on est comme bien d'autres, on n'a pas beaucoup de moyens pour se mousser, oui. Hein, mais on fait ce qu'on peut. Alors, écoute, oui. Merci encore, Denise. Et on reste en contact, c'est très intéressant. Merci.
Ça fait plaisir. Bon été.